On est appelé aux noces de l'agneau. Un mariage qui s'en vient. Hein? Dieu avec sa création. Séraphin, il dirait que la belle créature. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Si on est heureux, ça s'en vient. Hein? Ça peut se faire en un clin d'œil. Jésus apparaît et puis la mariée va être rassemblée. Belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Ah, ça, c'est le plus beau conte de fées qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité. Bien meilleur que la Belle au bois dormant ou Cendrillon. C'est bien meilleur que ça. Pourquoi? Parce que en réalité, là, la Belle au bois dormant puis la Cendrillon est méchante. Elle est haïssable. Elle est détestable. Elle est rebelle, elle est impie, elle est impure, elle est orgueilleuse, puis elle est égoïste. Alors, on a besoin, la belle mariée avait besoin de quelque chose qu'on va voir ce matin pour être présentée devant Dieu pur. Et ça, c'est un miracle de l'immensité de l'amour de Dieu. Hein? Nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable. Le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de mourir. Mais le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, haïssables, détestables, rebelles. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Lorsque nous étions encore dans cet état-là, tout sale, pourri, Jésus nous a choisis, Jésus nous a transformés à sa gloire. Il y avait un article cette semaine de Martineau. J'ai dit « Wow! » Enfin! Il y en a un qui a vu clair un petit peu, hein? Il dit, l'homme est fait comme ça. Laissez-le lui-même enlever les photoradars, les voitures de police de la route. Il va rouler à 200 km dans une zone de 50. Oubliez Jean-Jacques Rousseau. L'homme ne naît pas bon et la société ne le corrompt pas. C'est le contraire. L'homme naît tout croche et la société l'oblige à bien se conduire et à respecter les règles. L'homme naît tout croche, enfin. Tu veux que les citoyens respectent la loi? Surveille-les. Sinon, s'ils sentent qu'ils peuvent briser la loi en toute impunité, ça va être l'anarchie. L'homme, avec un petit H, ne s'auto-régule pas. On l'oblige à changer, sinon il garde ses mauvaises habitudes. Les gens fument moins parce qu'on a rendu la vie des fumeurs impossible, point. Sinon, on boucanerait encore dans les avions et les cinémas. Les Gérards qui défilent à la commission Charbonneau ne sont pas des monstres. Ce sont des gens ordinaires qui ont grandi, évolué dans une culture d'insouciance. Il pigeait dans le plat parce que tout le monde pigeait dans le plat. J'ai jamais pensé que c'était de la corruption parce que ça se faisait comme ça, pour tout le monde, a dit un entrepreneur au Devoir. Je trouvais ça normal. Aujourd'hui, les mentalités changent. En tout cas, je l'espère. Alors, il a compris quelque chose que l'être humain est déchu, l'être humain est loin de Dieu, séparé de Dieu. Et... Peut-être quand on se compare, on se console. On peut en trouver des pires, hein? Hitler et Idi Amin Dada, puis Mao, hein? C'est des êtres répugnants qui ont fait des choses épouvantables. Et à côté de nous, on peut les regarder de haut. Mais lorsqu'on se compare à Dieu, lorsque Dieu nous regarde, il n'y a pas tellement de différence entre Michel Houle puis Hitler. On a besoin de revenir à ça, à cette vérité-là que nous étions autrefois. La belle mariée, là, elle était autrefois insensée, désobéissante, égarée, asservie à toute espèce de désir, de passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, étant haïssable et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est quoi le miracle qui s'est produit lorsque Dieu est venu? Parce que Jésus est venu, Il y a un miracle qui s'est produit. La suite du verset. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, parce qu'on était bons, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération, il nous a lavés, hein, purifiés, il nous a rendus belles comme une mariée. Et le renouveau du Saint-Esprit, le renouvellement spirituel. Alors, un miracle, une œuvre de Dieu. On a vu aussi, je vous résume un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, mais on a vu, hein, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Alors, comment on régénère? Comment est-ce qu'on s'engendre? Bonne question. Hein? Il y a un monsieur qui est venu voir Jésus, hein, qui avait un petit peu cette réflexion-là. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de lui? Nicodème. Hein? Histoire de Nicodème, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi la régénération. Il est venu à Jésus. Avant ça, il y avait des foules qui suivaient Jésus, juste avant, là, le verset avant. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Wow! Hein? L'Église était remplie à la vue des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas, c'est le même verbe, ne croyait pas en eux. Eux, ils croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende le témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Hein? Et il y a un gros « mais » ensuite, le verset suivant. « Mais » Alors, il y a une relation entre ce qui va arriver à Nicodème et ce qu'il vient de dire auparavant. « Mais » il y en avait un. Il y avait un Nicodème. Et quel genre de croyant qu'il était, lui? Est-ce qu'il était comme les autres qui avaient une foi superficielle, suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles, ou parce qu'il y avait un bon repas, qui était servi, et puis il était attiré? Qui était Nicodème? Et qui ce monsieur-là? Vous pouvez répondre. Un pharisien. C'est quoi un pharisien? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, les pharisiens? Il est instruit. Même, c'est écrit qui est un peu plus loin, tu es le docteur d'Israël, c'est pas là. Un docteur, le docteur d'Israël, il le met au singulier. Tu es le docteur d'Israël. Alors, quelqu'un qui était instruit dans la loi, qui connaissait la Bible, dans ce temps-là, on l'apprenait par cœur, peut-être qu'il la connaissait par cœur d'un bout à l'autre. Autre chose? Un pharisien, c'est quelqu'un qui est religieux, qui suit et essaie de suivre la loi à la lettre dans ses moindres petits détails. Hein? Et puis qui regarde les autres avec ses lunettes et puis dit whoop, 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 puis whoop. Il y a des manquements, hein? Et c'est pas tout le monde qui suit la loi comme un pharisien le suit. Il était très légaliste, un esprit de jugement sur les autres personnes en général. Bon, ils ne mettent pas tous dans le même paquet, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas cet esprit-là. Mais en général, c'était eux les justes. C'était un chef des Juifs. Alors, il faisait partie du Sanhédrin. Ça, c'était la cour supérieure en Israël. Un homme extrêmement important, influent, irréprochable, en tout cas extérieurement, dans ses pratiques, dans ses croyances. Il était kosher. Hein, il était top de sa race. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait pu être juste devant Dieu, là, c'était lui. Si quelqu'un avait pu être juste en observant la loi, c'était Nicodème. Si la loi avait amené quelqu'un à la perfection, c'était Nicodème. Alors, très religieux, très pratiquant, très croyant, très fervent. S'il y a quelqu'un qui méritait d'aller au ciel, c'était lui. Et on nous dit qu'il est venu, il vint de nuit. Il est venu de nuit. Quelqu'un a une idée pourquoi? Il y avait des pharisiens qui portaient des lunettes. Hein? Des lunettes qui peut-être voyaient dans la nuit. Non, pas à cette époque-là. Oui. Ah, donc, Nicodème, tu es allé voir Jésus de nuit parce que il ne voulait pas être jugé. Il ne voulait pas trop s'avancer, peut-être. Hein? Il était prêt à croire en Jésus, mais pas trop, sans que ça coûte trop cher à sa réputation, hein? À son poste d'influence. Hein? Il n'était pas prêt à s'identifier publiquement. Donc, il n'était pas contre Jésus, mais il n'était pas pour. Il était comme neutre entre les deux. Il balançait entre les deux. Mais Jésus avait réussi à capter son attention. Ça l'intriguait. On peut dire ça. Ça le forçait à réfléchir. Marc?
Oui, il dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. » Mais la part de tout, ça veut dire qu'il aurait pu dire, « Moi, contrairement aux autres,
ouais.
Donc, au moins, peut-être c'est le seul qui a l'authenticité d'avouer qu'il croit. C'est vrai qu'il va de lui, mais en même temps, apparemment qu'il n'est pas seul, mais les autres ne vont même pas parler à Jésus.
OK. Alors, le « nous », qu'est-ce qu'il y a dans le « nous » Et qui est dans le « nous » là?
Bonne question.
Hein?
Il se cache derrière
nous un petit peu, ouais. Nous savons. Hein? Nous, moi, pharisien, et les autres, on est en position d'autorité sur toi, Jésus. Hein? Je suis pas n'importe qui, et c'est pas n'importe quoi qui vient te voir, même de nuit. Hein? Moi, Nicodème, je peux certifier que tu es de Dieu. Hein? Et probablement que je peux convaincre les autres du Sanhédrin, les autres pharisiens, et beaucoup de personnes de mon entourage que tu pourrais avoir mon sceau d'approbation. Et Jésus, il a dit, wow, toute une recrue, ça. Ça va faire tout un apôtre. Wow, un gars influent, enfin, quelqu'un qui est haut placé, qui comprend, super apôtre. Hein? Un des 12 peut-être. Et s'il est prêt à me donner un petit peu son appui, son support, là, poser son sceau d'approbation sur qui je suis, wow! Hein? Et là, je suis sarcastique, hein? C'est pas ça que Jésus a dit. On va le voir un peu plus loin. Maître, il appelle maître en plus. J'aimerais bien ça te croire, j'aimerais bien ça t'approuver. J'aimerais bien ça, concilier ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu fais avec ce que je pense, ce que je crois être la vérité. Hein? J'aimerais ça que te faire fitter dans mes valeurs. Hein? J'aimerais ça vraiment que tu trouves une place dans ce que toutes les bonnes choses que je crois dans toute ma vie. Lui était convaincu qu'il était correct devant Dieu. Il était convaincu qu'il avait passé l'examen de la loi, qu'il avait gagné la faveur de Dieu, qu'il menait une bonne vie. Il était au top de ce qu'un être humain peut être proche de Dieu, si on peut dire. Et c'était quoi son problème? Il était loin de Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. quand il appelait Jésus maître. C'était loin de venir à Jésus, conscient de son état réel, conscient de sa perdition, conscient de l'état de son cœur devant Dieu, de sa position devant Dieu. Il était perdu. Il va avoir un entretien d'égal à égal avec Jésus. Il n'était pas prêt encore. Il n'avait pas besoin. Il ne comprenait pas qu'il devait le reconnaître comme son sauveur, qu'il avait besoin, Nicodème avait besoin d'être sauvé. Il y a combien de Nick? Hein? Il y a combien de Nick comme ça qui ne sont pas perdus? On se débrouille bien. Pas besoin de Dieu. On fait une belle et bonne vie. On est autosuffisant. On s'auto-justifie. On peut voler d'une façon éhontée. Et il n'y a rien là. C'est la pratique courante. Hein? Une conscience très large, très élargie. On adapte notre conscience à ce qui se pratique. Mais assez croyant, assez bon pour aller au ciel, par exemple. S'il y a une vie après la mort, hein, s'il y a une vie après la mort, je pense que j'ai mené une vie assez bonne que quand je vais mourir, là, je vais aller au ciel. Beaucoup de Nick, hein, comme ça. Beaucoup de Nicodème qui pensent qu'ils mènent une bonne vie et puis ils vont mériter d'aller au ciel. Ou en tout cas, sont pas assez méchants pour que Dieu les envoie en enfer, que Dieu les mette dans ce lieu de tourment. Ou que Dieu n'est pas assez méchant pour faire ça. Hein? C'est le bon Dieu. Pas assez méchant pour punir un être aussi bon que moi. Et on s'arrange avec Jésus. Hein? On prend ce que Jésus a de bon à dire, et puis on essaie d'arranger ça avec ce qu'on croit, ce qu'on fait fitter avec nos croyances, nos pratiques religieuses. Est-ce que vous croyez en Jésus? Ah oui, c'était un grand homme, c'était... Hein? On essaie d'amener Jésus à... dans nos croyances, il fit bien dans nos croyances, de réconcilier Jésus avec ce qu'on pense. Bang! Jésus nassé, là. Peut-être que j'ai extrapolé un petit peu sur le personnage, mais je pense que ça correspond bien à nos Nicodèmes aujourd'hui. Des gens qui sont essaient de se justifier, de rentrer Jésus dans leur croyance. Bang! Ça, c'est le bang. Jésus, il coupe net, fret, sec. Et fret au Québec, ça veut dire très, très froid. Hein? Pour ceux qui n'ont pas connu encore, ça s'en vient. Hein? Ça va être fret bientôt. Et Jésus, je pense qu'il était très fret, net, fret, sec. Je t'arrête tout de suite, mon Nico. Pas Nigo, Nico, Nick. En vérité, je te le dis, Nick, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Jusque-là, c'était le tête-à-tête. Hein? Le membre du Sanhédrin, le docteur d'Israël... Le pharisien qui venait en tête à tête d'égal à égal avec Jésus pour essayer de voir comment il pourrait réconcilier ce qu'il croit avec... hein? Et là, Jésus, il descend 16 pouces plus bas. Là, un entretien cœur à cœur avec Nicodème. En vérité, là, ça veut dire que Jésus, il replace les choses comme elles sont. Nicodème, hein? C'est très, 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 très important ce que je te dis là. En vérité, quand Jésus dit ça, là, c'est important. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la réaction de Nicodème, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il feint la folie ou je ne sais pas quoi là? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment est-ce que je pourrais retourner dans le sein de ma mère? Ma mère est toute petite, hein? Alors, comment je pourrais rapetisser au point que je pourrais retourner dans le sein de ma mère puis revenir au monde? C'est assez terre à terre comme réflexion, n'est-ce pas? Est-ce qu'il fait l'innocent? Est-ce qu'il vraiment il veut comprendre? On ne sait pas trop. Et Jésus renchérit. Hein? 4 autres fois, il répète 5 fois dans 5 versets, là. Il répète 5 fois la même affaire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Alors, il a tapé sur le clou 5 fois, ça rentre dans le cœur de Nicodème. Est-ce que ça a rentré? Ça a rentré? Nicodème reprit la parole et dit, je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça. Il l'a remis à sa place, comme on peut dire. Hein? On n'est plus d'égal à égal. Je pense que je sais des choses que toi, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de comprendre. Et la chose que Nicodème avait besoin de comprendre, que les Nick modernes ont besoin de comprendre, c'est Nicodème, t'es mort. Nicodème, t'es mort. T'es pas mieux que mort. Nicodème, là, toute ta bonne vie, là, toutes tes bonnes affaires, tes performances, même si t'es sincère, t'essaies de faire le bien, puis tous tes efforts, oui, c'est louable, c'est. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te pousse à faire ça. Mais ça ne change absolument rien à ton état. Nicodème, ça ne change rien à ta nature profonde. Ça ne change rien à ton cœur. Nicodème, t'es mort à l'intérieur en ce qui concerne les choses de Dieu. Puis imagine un condamné à mort, là, quelqu'un qui est dans une prison, qui purge sa sentence à vie. Même s'il est le plus merveilleux prisonnier, le plus gentil qu'il n'y a pas dans toute la prison, il demeure un condamné à mort. T'as raté la cible, Nicodème. C'est la signification de péché, là. C'est rater la cible. La cible, c'est la perfection de Dieu. Les standards de Dieu. Nicodème, même avec toutes tes performances, là, tu ne pourras jamais gagner la faveur de Dieu. Tu ne seras jamais accepté au ciel parce qu'il n'y a pas la moindre trace de péché qui va entrer dans la présence de Dieu. Alors, tant que tu vas continuer à penser que tu veux, que t'es correct, que tu peux gagner ton ciel avec tes performances en suivant la loi, t'es mort. T'es mort. Ton seul espoir, Nicodème, c'est de revivre, recommencer ta vie, naître de nouveau, avoir une nouvelle vie, recevoir une nouvelle vie. Revenir à la vie. Avoir un nouveau cœur, avoir une nouvelle nature. Les choses anciennes vont être passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Tu as besoin que ça se passe dans ta vie. Parce que ton cœur comme il est là, ta nature comme elle est là, Elle est comme Martineau l'a décrit, là. C'est juste parce qu'il y a des lois, parce que on sauterait sur, hein. Cette vieille nature-là, elle aime le péché, puis elle en veut. Et puis elle veut juste faire ça. Et c'est vrai, Nicodème, que c'est impossible. C'est vrai, Nicodème, humainement, c'est impossible de renaître, n'est-ce pas? Qui peut revenir à la vie, retourner dans le sein de sa mère et renaître? Impossible. Mais gloire à Dieu, c'est un miracle que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de redonner une nouvelle vie, de redonner un nouveau cœur, puis on recommence à vivre, notre cœur recommence à battre pour le Seigneur. Notre cœur se met à aimer Dieu. Notre cœur se met à aimer les frères et les sœurs. Notre cœur se met à aimer les autres personnes autour. Ça, c'est, ça prend un miracle. Il n'y a pas une personne ici qui est capable de faire ça. Ce changement de cœur-là. Alors, Nicodème, avec toute sa belle humanité, si on peut dire, bien décorée, au top de ce que l'être humain a pu atteindre comme sainteté, comme justice, Dieu lui dit, t'es mort, t'es séparé de Dieu. Tu connais rien, t'entends rien, tu connais rien aux choses de Dieu. Tu peux pas comprendre les choses de Dieu. Alors, Nico, t'es pas d'égal à égal. Nico, je suis ton sauveur et t'as besoin d'être perdu si tu veux que je te sauve. Hein? Nico, t'es dans la noirceur. Dans les ténèbres. C'est pas que tu as perdu la faculté de penser, de choisir, de faire des choix, de ressentir des choses. Tu es encore un être humain qui a toutes ces facultés-là, mais tu es comme dans le noir. Dans les ténèbres. Martineau, il dirait, tes pensées sont tout croches, tes désirs sont tout croches, tes émotions sont tout croches. La Bible a dit, voilé, dévié, sans Dieu. Comment on va faire? Imaginez, on est dans le noir absolu, là. Pas la moindre petite lumière. Pas la moindre petite étincelle. Okay? Comme si on fermait les yeux, là. Ça, c'est notre état devant Dieu. Nicodème, t'as un voile sur les yeux, tu ne peux pas voir. Nicodème, malgré toutes tes performances, tu ne vois pas ton propre cœur. Imaginez qu'il y a une petite bougie. Dans la pièce ici. Petite bougie qui s'allume, mais qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir notre cœur. On va voir qu'on est dans la jungle. Première chose qu'on va voir, qu'on doit voir pour naître de nouveau, c'est que nous sommes perdus sans Dieu. Et le Seigneur va allumer une petite lumière. Le Seigneur a allumé une petite lumière dans le cœur de Nicodème. Qui dit que, et ce qu'il a vu là, ce qu'il devait voir en tout premier, c'est qu'il était perdu dans son péché. Réalisé, conscient que je suis au milieu de la jungle, avec tous mes beaux raisonnements, toutes mes performances en tant qu'être humain. Je ne mérite pas le ciel. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque on est dans cet état-là? Prends conscience de l'état de notre cœur. Quand vous êtes venus au Seigneur, ceux qui ont été régénérés, il y a un cri du cœur qui dit, « Oh, wesh! Seigneur, je suis perdu. Moi, j'ai été des mois tourmenté parce que j'essayais d'être juste devant Dieu. Je pratiquais ma religion, là. Si on faisait 8 premiers vendredis du mois, on avait une indulgence plénière. J'en ai-tu fait? Hein? Je sais pas combien de fois j'ai fait ça. Le problème, c'est que le lendemain, ça recommençait. J'avais mon indulgence, j'avais fait mes premiers 8 premiers vendredis du mois. Je suis allé à messe le vendredi. Pendant 8 semaines. Je croyais que j'allais être juste devant Dieu, que mes péchés étaient effacés. Le problème, ça recommence. Hein? Non. Ça marche pas. Toutes nos pratiques. Jusqu'au moment où j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, je m'en vais en enfer. Je vais être séparé de toi pour l'éternité. Et même à partir du moment où j'ai fait cette prière-là, que j'étais sauvé, entre guillemets, je faisais des cauchemars, je rêvais à Jésus qui revenait, puis moi, je restais là. Il m'amenait pas avec lui, je faisais pas partie de ceux qui étaient sauvés, de la belle mariée. Prendre conscience de notre état. Seigneur, je suis vraiment perdu sans toi. Viens à mon secours, sauve-moi. Si Nicodème avait pu faire ça à ce moment-là, hein? Crier au secours, qu'est-ce qu'il aurait vu? Il aurait vu Jésus au bout du tunnel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Suis-moi, m'a sorti de la jungle. Suis-moi. Suis-moi. Donne-moi ta vie. Tu vas recevoir un nouveau cœur. Tu vas recevoir une nouvelle nature. Tu vas renaître de nouveau. Tu vas commencer à vivre. Tu vas avoir une vie nouvelle en Jésus. Il n'a pas compris à ce moment-là. Possiblement qu'il a compris un peu plus tard parce que c'est lui qui est allé embaumer Jésus. Il a payé pour ces choses-là avec son ami qui avait peur des Juifs lui aussi, Joseph d'Arimathée. On espère qu'à un moment donné, il a accepté Jésus plus que comme un rabbin d'égal à égal, mais a accepté Jésus comme le Fils de Dieu qui venait donner sa vie pour payer pour les péchés de Nicodème, qui était perdu sans lui. Alors, il l'a pas accepté immédiatement. Il s'est en retourné, probablement qu'il s'est mis à réfléchir là-dessus. Il a continué à écouter Jésus. Il a continué peut-être à suivre les foules. Il a défendu Jésus devant le Sanhédrin. Timidement, mais quand même, il a fait des pas. Et probablement qu'à un moment donné, il est devenu un disciple de Jésus-Christ qui s'est affiché parce qu'il a compris qui était Jésus. Alors, je sais pas où est-ce que tu en es dans ton cheminement avec Jésus. Est-ce que tu penses que tu fais une bonne vie, que si tu meurs en t'en allant, tantôt, Jésus va te recevoir puis va dire, « Oh, quelle bonne personne! » Hein? Il va dire, « Yark! » Tout ce que cette personne-là a pensé de mal, tout ce qu'elle a dit de mal, toutes les insultes qui sont sorties de sa bouche, loin du premier commandement de Dieu qui est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Il est où Dieu dans ta vie? Et d'aimer ton prochain. Est-ce que tu penses vraiment, si tu meurs maintenant, tu rentres en présence de Dieu, que Dieu va te recevoir sur la base que tu as fait une assez bonne vie? Bien, je te dis que tu crois un mensonge, que tu es dans l'erreur, tout comme Nicodème. La vérité, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vérité, c'est que le moindre petit péché te classe dans la catégorie des pécheurs, comme tout le monde. Et qu'il n'y a personne de parfait. Excusez, il y a une personne qui était parfaite, c'est Jésus. Et tous les autres, on est imparfaits et on n'entrera pas dans la présence de Dieu. On n'ira pas au ciel quand on va mourir. On va être séparés de Dieu. Et on va payer nous-mêmes pour toutes nos fautes. Bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Dieu peut tout changer ça. Tout changer ça. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Seigneur, je suis perdu. Perdu. Sans toi, Seigneur Dieu, là, je ne mérite pas le ciel. La deuxième chose que Nicodème aurait dû faire, crier à Dieu, sauve-moi. Je suis pécheur. J'ai besoin de ton salut. J'ai besoin que tu laves, que tu purifies ce cœur pourri, puis que tu le transformes en une nouvelle personne. Est-ce que tu veux devenir une nouvelle personne? Née de Dieu, comme c'est promis? Recevoir une nouvelle vie? Crie à Dieu. Oui, Seigneur, je le veux. Je veux cette nouvelle vie-là. Je veux ce miracle-là. Je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de changer. Mais toi, Seigneur, tu peux me donner cette nouvelle nature, ce nouveau cœur. Et ma vie va être transformée. Elle va porter du fruit. Voulez-vous prier avec moi? Oui, Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui vient à toi, qui est venu à toi, qui est ici, c'est parce que il cherche. Le Seigneur t'a promis que celui qui cherche, il va trouver. Alors, Seigneur, on vient à toi, tel que nous sommes. Nous étions pécheurs. Nous étions, Seigneur, perdus. Est-ce que tu peux dire, oui, c'est vrai. Seigneur, je n'ai pas mené une assez bonne vie pour aller au ciel. Il y a plein de choses que j'ai dit, que j'ai fait, qui me séparent de toi. Toi qui es saint, trois fois saint, qui est parfait, il n'y a rien d'impur qui va venir dans ta présence, et je suis impur. Je suis tout sale. Je suis souillé. Est-ce que tu peux dire ça honnêtement devant Dieu? Confesser, Seigneur, je suis pécheur. Et le deuxième pas, c'est crier. Seigneur, au secours, au secours. Je suis pas capable de mener une vie assez juste pour gagner mon ciel. Et je mérite la mort. Viens à mon secours, Seigneur. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur. Je te reconnais comme celui qui est Dieu et qui a le pouvoir de donner une nouvelle vie. Et Seigneur, je reçois maintenant cette nouvelle vie que tu m'offres en croyant en toi de tout mon cœur. Seigneur, tu deviens mon maître. Je te reconnais comme celui qui est le maître de ma vie. Et je viens à toi. Je reçois ton pardon. Je reçois cette nouvelle vie, ce nouveau cœur maintenant. Regarde à Jésus. Peut-être il est sur la croix. Peut-être tu le vois sur la croix. Peut-être tu le vois à côté de toi. Écoute-le. Qu'est-ce que Jésus te dit? Probablement quelque chose comme quand je suis mort sur la croix, mon frère, ma sœur, mon enfant, c'est pour toi que je suis mort. J'ai reçu ta condamnation et il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi. Parce que je suis ton sauveur et j'ai payé à ta place. Seigneur, maintenant je me relève. C'est mon premier pas dans cette nouvelle vie, avec ce nouveau cœur. Et je veux te suivre, je veux sortir de cette jungle qui est ma vie présentement. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'aide de cette Église, de frères et de sœurs qui vont m'accompagner. Je t'invite à lever la main, parce qu'il y a une grande main qui est levée au-dessus de toi. C'est la main de Dieu qui t'offre de te sauver. Juste mettre ta main dans la main de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je peux dire, je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu, que j'ai une nouvelle vie. Je t'aime du plus profond de mon cœur et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Amen.